Ésaïe chapitre 65 sera la première lecture que nous ferons. Dieu, c'est Jésus-Christ qui a les bras qui sont tendus vers nous. Voilà l'image que nous devons garder ce matin. Et si je peux donner un titre à ce message, c'est les bras tendus de Jésus. Ésaïe chapitre 65, regardez ce qu'il est dit au verset 1er. Dieu qui parle à son peuple dans l'Ancien Testament, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. » Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Ça veut dire à tous les païens, et on fait partie de ceux-là. Hein. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Amen. Dieu s'adresse à son peuple, Dieu s'adresse aux Juifs, Dieu s'adresse au peuple d'Israël, et il leur dit, j'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle. Mais voilà, déjà la pensée qui est là, c'est que même si on a un cœur qui est rebelle, loin du Seigneur, même si on fait n'importe quoi, qu'on n'écoute pas sa voix, il faut déjà savoir qu'il y a un Dieu qui tend les mains vers vous, pour vous faire grâce, pour vous faire du bien, pour vous secourir. Alors, ce matin, où est-ce qu'on en est sur le chemin de la foi? Est-ce que ça fait des années que l'on marche? Est-ce que ça fait plus de 40 ans? Qui peut dire ça fait plus de 40 ans que je marche avec le Seigneur? Il y en a quelques-uns. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a que ça fait moins d'un an qui connaissent le Seigneur? Il y en a? Bon, ils osent pas lever la main. Je sais qu'il y en a. Il y en a qui sont qu'au début de la marche chrétienne. Est-ce que pour autant le Seigneur il a fermé ses bras? Est-ce que pour autant le Seigneur il dit « Bon, maintenant je l'ai assez béni celui-là ou celle-là » Je vais la laisser tomber, je vais m'occuper des autres, ils en ont plus besoin. Est-ce que c'est le Dieu que vous avez? C'est pas ce Dieu-là que l'on a. Même ce texte nous dit que même si on a connu Dieu et qu'on est en arrière, qu'on fait n'importe quoi dans notre vie, Dieu, il a toujours les mains tendues, les bras tendus vers nous pour nous faire du bien. L'image que j'avais, c'est un petit peu cette statue, même si c'est pas bien les statues, c'est pas bien les adorer surtout, mais l'image, vous savez, la statue qui est à Rio. La grande statue du Christ qui ouvre les bras. Je trouve que c'est quand même quelque chose où tous les matins on peut se lever, on regarde vers le ciel et on voit Jésus qui tend les bras. On peut le faire de manière spirituelle dans notre cœur, c'est encore mieux. Hein. Tous les jours, quand vous vous levez le matin, imaginez que Jésus tend les bras sur votre vie, prêt à vous bénir. C'est un des points d'ailleurs qu'on va partager. Les bras tendus pour accueillir, les bras tendus pour nous blanchir le cœur, les bras tendus pour nous bénir. Alors, premier texte vraiment dans lequel on va rentrer, c'est Marc chapitre 9, verset 33. On voit que Jésus, à ce moment-là, il a tendu ses bras vers une personne. Et c'est pas celle que tout le monde attendait. Marc chapitre 9, verset 33. Il est dit ceci. Ils arrivèrent à Capernaum. Et lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. » Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Amen. Vous avez déjà pris un enfant dans vos bras? Est-ce que c'est une épreuve difficile? C'est une grâce, surtout quand l'enfant nous le rend, quand il fait un petit câlin. Et en ce moment, notre petite fille, quand on la couche le soir, il faut qu'on lui fasse un bisou, un câlin et un bisou à nouveau. C'est le rituel. Et bien sûr, pour un papa et une maman, c'est super. Mais c'est particulier cette pensée qui est là parce que c'est dans un contexte spécial. Les disciples viennent de vivre deux échecs. Si vous lisez le chapitre 9, vous vous rendez compte que les disciples ont vécu deux échecs. Jésus est redescendu avec trois de ses disciples de la montagne de la Transfiguration et ils sont là devant un jeune garçon justement qui est possédé. Son père qui est là, qui le supplie d'intervenir. « Si, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Jésus chasse le démon. Alors que les disciples n'ont pas pu le chasser. Et ils sont là, dans cet échec de ne pas avoir pu, par leur vie, manifester la grâce de Dieu. Le deuxième échec qui est là, ils ont échoué pour comprendre que Jésus leur annonçait sa mort. Jésus venait leur dire, il va falloir que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit qu'il mis à mort, crucifié, 3 jours dans le tombeau. Mais la Bible dit qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Ils n'arrivaient pas à comprendre que c'était quelque chose qui allait se passer. Et avec ces deux échecs-là, la discussion que ces hommes ils avaient en chemin, c'était pas de dire, bon, il faut qu'on se remette en question, les gars, il faut qu'on prie, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on cherche la face de Dieu. La discussion qu'ils avaient, c'était quoi? Qui c'est le plus grand? Qui c'est qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Ah, moi, j'ai marché sur l'eau. Ah, moi, j'ai chassé des démons la dernière fois, pas celle-là d'avant. Ah, moi, j'ai guéri un malade. Ah, moi, j'ai fait ceci. Ah, moi, j'ai fait cela pour le Seigneur. Qui c'est qui est le plus grand? Et ils se sont peut-être dit, ben, il va falloir qu'on demande à Jésus. Sauf que Jésus, c'est lui qui commence, qui pose la question. Et vous savez que quand Jésus pose une question, et c'est pas pour connaître la réponse, hein. Quand Jésus vous pose une question, il sait déjà la réponse. Mais c'est pour vous faire réfléchir. Et combien c'est bon quand le Seigneur nous pose des questions. Ce qui les préoccupe, c'est de savoir qui est le plus grand. Alors Jésus va leur donner 2 leçons. D'abord, une leçon d'humilité en leur expliquant que le royaume de Dieu n'a pas du tout les mêmes règles que le royaume de ce monde. Et pour leur expliquer que celui qui veut être le premier, celui qui veut être en avant dans le royaume de Dieu, le plus grand, il faut qu'il soit le serviteur. Mais pas n'importe quel serviteur, le serviteur de tous. Ça veut dire même des gens, même des personnes qu'on considère comme les plus petits. Le monde nous dit, si tu veux être grand, écrase les petits qui sont près de toi pour grandir. Appuie-toi sur eux pour que toi, tu sois mis en avant. Et j'avais des personnes dans mon travail à l'usine qui employaient cette technique-là. Pour pouvoir s'élever aux yeux des patrons, ils écrasaient tous ceux qui étaient en dessous. Et ils avaient l'impression comme ça qu'ils avaient un grand leadership. Ils étaient vraiment des grands responsables. Alors qu'ils n'avaient aucun mérite. Ils faisaient du mal, ils blessaient par leurs paroles, ils faisaient des pièges pour que les autres soient condamnés et pas eux. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Hein. Et vous savez combien de douleurs cette attitude engendre dans notre monde aujourd'hui? Combien de personnes vont travailler avec le stress au ventre parce qu'ils en peuvent plus de leur patron? Mais quelle grâce que nous pouvons trouver toute autre façon de faire dans le royaume de Dieu auprès des frères et auprès des sœurs. Savoir que Dieu nous appelle à être les premiers en étant les serviteurs de tous, en étant les serviteurs même des plus petits d'entre nous, même de ceux que l'on considère peut-être comme les plus petits. Mais Jésus leur montre aussi cette leçon pratique en faisant venir un petit enfant. Il prend le petit enfant et il le place au milieu d'eux. Et eux qui avaient des pensées de grandeur, eux qui se pensaient plus grands que les autres, ils regardent le petit enfant. Qu'est-ce que vous imaginez qu'ils ont pensé par rapport à ce petit enfant? Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? À l'époque, les petits enfants, ils n'étaient pas autant considérés qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas la journée de l'enfant. Ça n'existait pas, ça. Et les femmes et les enfants, c'était pas considéré du tout. Mais Jésus, lui, montre cette attitude d'ouverture. Prêt à accueillir un petit enfant. Il le met au milieu. Et qu'est-ce qui se passe quand on met un petit enfant au milieu de nous? Au milieu d'adultes? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe quand on met un petit enfant au milieu de nous? Il se passe qu'il est terrifié. Il se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'il va me demander? Heureusement qu'il connaît la personne qui est là derrière, donc il s'accroche à elle. Et qu'est-ce que fait Jésus alors que les disciples sont là et sont en train de se dire, mais nous, combien on est mieux que ce petit enfant? Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, j'ai fait tel miracle, j'ai béni telle personne. Qu'est-ce que Jésus va faire de ce petit enfant? Voilà les pensées qui sont dans leur tête. Et qu'est-ce que fait Jésus devant ce petit enfant? Vous avez remarqué? Jésus se tourne vers lui, regarde-moi. Et il lui fait comme ça. Et le résultat? Et là maintenant, qui c'est qui est le plus heureux? Est-ce que c'est les disciples ou est-ce que c'est le petit enfant? À votre avis, qui c'est qui a la meilleure place? Est-ce que c'est pas le petit enfant? Pourquoi? Parce que Jésus a ouvert ses bras vers lui. Merci Rémi. On peut l'applaudir. Voilà ce que Jésus veut faire envers chacun de nous. Et voilà la pensée que j'avais sur le cœur. Jésus a les bras tendus pour accueillir le plus petit. Peut-être que vous vous sentez tout petit devant Dieu. Peut-être que vous vous sentez méprisé. Peut-être que vous vous sentez abandonné. Quelle que soit la raison pour laquelle vous vous sentiez petit, Jésus a les bras tendus vers vous pour vous accueillir, comme il a fait pour ce petit enfant. Et la deuxième pensée qui est là, c'est que parfois, ce sont les autres personnes qui nous méprisent. Ce sont les autres, les gens du dehors qui nous font du mal. Le témoignage que je disais tout à l'heure par rapport à sujet de prière, cette famille qui est menacée de mort, ce pasteur en particulier menacé de mort, parce que il est simplement chrétien et il prêche l'évangile, est-ce qu'il n'est pas considéré comme un rebut de ce monde? Mais croyez-moi, les bras de Jésus sont ouverts pour cette famille. Et ce matin, la question que je veux vous poser de la part du Seigneur, est-ce que vous vous sentez tout petit? Est-ce que vous vous sentez faible? Est-ce que vous vous sentez démuni par rapport à la situation? Comme un petit enfant qui est là, apeuré parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer? Alors croyez que Jésus tend ses bras d'amour vers vous et veut vous apprendre à vivre cette réalité de son amour et de sa présence. Un homme, une fois, est venu voir son fils cadet. Et ce jeune homme, il faisait n'importe quoi dans sa vie. Il avait des débordements, des excès dans toutes sortes de domaines. Et il jetait vraiment la honte sur cette famille qui avait une bonne réputation. Mais à cause de ce fils, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi l'éducation qu'ils donnent à leur enfant? Alors un jour, cet homme, il a fait un conseil de famille. Et puis, il avait les yeux remplis de larmes. Il s'est tourné vers le frère aîné. Il lui a dit, toi qui es son frère aîné, est-ce que tu es d'accord que j'exclue de la maison ton frère? Et le frère aîné, tellement il n'en pouvait plus lui aussi, il a dit, oui, chasse-le, il faut qu'il en soit ainsi. Après, il se tourne vers la sœur et il dit, toi qui es sa sœur, est-ce que tu es d'accord que je mette à la porte ton frère? Et la sœur, elle dit, sans aucun doute, notre frère fait honte à notre famille, il faut que tu le mettes dehors. Alors il se tourne après vers l'oncle qui était aussi présent au conseil de famille. Et il lui dit, est-ce que toi qui es l'oncle, tu peux me conseiller de bannir mon fils de ma maison? Ah oui, répond l'oncle. Il lui dit, tu as été trop patient. Il y a déjà longtemps que tu aurais dû le faire. Alors le père, rempli, les yeux remplis de larmes, il se tourne vers son fils. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, tu viens d'entendre ce qui a été dit par ton frère, par ta sœur, par ton oncle. Et bien que tous t'aient retiré leur affection, ton père affligé ne fermera pas son cœur et ne te chassera pas de chez lui. Et alors qu'il dit cette parole, il prend son fils et il le plaque contre son cœur. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette action de serrer son fils contre son cœur, malgré toutes les fautes qu'il a commises, ça a brisé le cœur de ce jeune homme. Ce jeune homme s'est mis à genoux, il a demandé pardon à toute sa famille. Et ce jour-là, il a décidé de changer de vie, de demander à Dieu de l'aider. Et le résultat, c'est que quelques temps après, ce jeune homme est devenu un serviteur du Seigneur. Simplement parce qu'un père, rempli de compassion vers son enfant qui avait fait n'importe quoi, a choisi de manifester l'amour plutôt que la condamnation. Et pensez à l'image de Jésus qui est devant la femme adultère. Qu'est-ce qu'il fait alors que tout le monde est là, la pierre à la main, prêt à dégainer? Jésus lui dit, va et ne pêche plus, je ne te condamne pas non plus. Vous savez de quelle manière il a réglé la situation pour les pharisiens, mais je veux montrer l'attitude de Jésus face à cette femme. Il dit pas, tout ce que tu as fait avant, c'est pas grave. Il dit, va, mais trouve dans la foi la force de ne plus pécher. Trouve dans cette communion avec le Seigneur la force d'aller de l'avant. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Est-ce que vous aimez ce verset? Si vous venez ce matin de tout votre cœur devant lui, il ne vous mettra pas dehors. Bien au contraire, je pourrais le compléter en disant, il vous serrera fort contre lui, parce qu'il est un Dieu d'amour. Dans Luc chapitre 23, verset 23, on voit une autre occasion où Jésus a tendu les mains. C'est peut-être celle qui est la plus connue. Luc chapitre 23, verset 32, pardon. Luc 23, 32, en conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crainte, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu !» Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation ?» Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Avez-vous remarqué qu'à la croix, Jésus a les bras grands ouverts? Bien sûr qu'il y a cet aspect de contrainte à cause des clous qui obligent ses mains à rester sur le bois. Mais nous savons très bien que Jésus a voulu volontairement aller à la croix. Il n'a pas été surpris par les plans des Romains, par les plans des pharisiens. Il avait un plan de Dieu qu'il devait accomplir. Et il savait très bien qu'il était sur la terre pour accomplir la volonté du Seigneur. Et à la croix, s'il y a la contrainte qui est là d'ouvrir les bras, il y a aussi le cœur, l'image de Dieu qui ouvre ses bras pour accueillir tous les pécheurs. À la croix, si Jésus ouvre ses bras, c'est pour le pécheur. C'est parce que son sang coule pour nous pardonner de nos péchés. Si les bras de Jésus sont grands ouverts, c'est pour blanchir, nettoyer, purifier nos âmes. Aujourd'hui, on voit tellement de péchés dans notre société, on voit tellement de mal se manifester, on voit même parfois de manière presque imperceptible des gens qui paraissent bien comme tous les autres, mais qui sont indifférents à la souffrance des autres. C'est impressionnant, mais une fois, je me suis promené dans un endroit et il y avait un homme qui était en train de malmener sa femme. Et il y avait des touristes qui passaient, personne qui s'arrêtait. Et moi, j'étais avec mon épouse, mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller essayer de m'interposer au milieu, même si le gars, il paraissait un peu costaud. En plus, il parlait en anglais, j'ai dû essayer de trouver des mots en anglais pour expliquer qu'il fallait qu'ils arrêtent. Et le temps que je parle avec le monsieur, la dame a pu partir comme ça, prendre un peu de distance. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que personne autour voulait faire quoi que ce soit. Voilà le mal qui est là dans notre société, l'indifférence, l'apathie. Vous savez, un état un peu léthargique où on est content de notre sort à nous, mais celui des autres, ça nous intéresse pas. Mais le Seigneur a les bras grands ouverts pour sauver tous les pécheurs, tous ceux qui demandent pardon, tous ceux qui acceptent de passer par cette étape de la repentance. Est-ce que c'est la repentance? Est-ce que c'est pas justement de réaliser que c'est nos péchés, mon péché, qui a conduit Jésus à la croix? Est-ce que c'est pas de réaliser que je peux saisir le pardon de Dieu par la foi? Comment est-ce que vous avez été convaincu que Jésus a pardonné vos péchés? Est-ce que vous avez vu un ange qui a écrit dans le ciel « Tu es pardonné » C'est comme ça? Il y a quelqu'un comme ça? Est-ce que vous n'avez pas eu cette révélation de la croix dans votre cœur un jour? Vous avez saisi la force, la puissance de cette œuvre qui a été accomplie à la croix? Oui, Jésus a ouvert ses bras, son sang a coulé de ses mains pour que mon péché puisse être effacé. Et c'est intéressant de réaliser ce qu'est vraiment la repentance. Il y a une petite histoire qui est intéressante. Un artiste qui voulait peindre une image du fils prodigue. Il connaissait la Bible et il voulait peindre cette image. Alors, il voit un mendiant dans la rue et il lui demande de venir dans son studio et de poser. Alors, le monsieur vient le lendemain. Le problème qui s'est passé entre-temps, c'est que, sachant qu'il allait être peint, il s'est rasé, il s'est peigné, il a mis son plus beau costume, cravate, et il arrive comme ça dans le studio du peintre, et le peintre, il lui dit, mais je suis désolé, mais je peux pas vous utiliser pour faire la peinture que je voulais faire. Vous auriez pas dû vous changer vous-même. Et la repentance, ce n'est pas d'essayer de se changer soi-même, parce que si vous vous présentez devant le Seigneur en essayant de vous changer vous-même, il vous dira, mais il peut rien faire avec vous. Tandis que si vous vous présentez tel que vous êtes, si vous venez devant le Seigneur tel que vous êtes, on entend une pub parfois, mais c'est intéressant cette pub, venez comme vous êtes. Mais c'est vrai ça, devant le Seigneur, si vous venez comme vous êtes, avec tous vos torts, avec vos vêtements spirituels en lambeaux, avec votre cœur brisé, avec les douleurs qui sont là, le désespoir, la dépression, tout ce qui ne va pas en vous et que vous le présentez au Seigneur, là, il va pouvoir faire un tableau merveilleux dans votre vie. Alors, il va pas le faire sur un bout de papier, il va pas le faire pour exposer quelque part, il va le faire dans votre vie. Il va vous changer vous-même, il va vous donner un vêtement blanc, il va vous donner un cœur nouveau, il va vous donner une assurance nouvelle, la vie éternelle. Voilà ce que c'est la repentance. Est-ce que nous sommes de ceux qui veulent dire devant le Jésus qui est à la croix, qui ouvre ses bras, « Seigneur, je veux passer par cette étape-là » Et vous allez me dire, mais moi, ça fait 40 ans, plus de 40 ans, il y en a quelques-uns qui sont là. J'avais plus de 40 ans que je suis le Seigneur, j'ai plus besoin de repentance. Qui c'est qui dit ça? Personne. Et vous avez intérêt, parce que tous les jours, parce que nous sommes tellement petits, Si nous présentons devant le Seigneur comme des petits enfants, alors nous réalisons notre petitesse et nous disons, Seigneur, oui, je veux encore aujourd'hui te demander pardon si j'ai fait du mal à mon frère, à ma sœur. Des fois, je me mets en colère. Des fois, je dis une parole qui va au-delà de ma pensée. Alors, Seigneur, je veux te demander pardon. Je veux demander aussi pardon à mon frère, à ma sœur. Il y avait un jour un jeune homme qui était d'origine noble. Il s'appelle le comte de Zizendorf, pour ceux qui connaissent, qui vient de Hollande d'ailleurs, il y a peut-être, non? En tout cas, il était, au moment de l'histoire, il venait de Hollande, à résidence de ses parents, pour se rendre à Paris et à Versailles. Et là, il lui attendait de brillantes réceptions mondaines. Il allait faire la fête. Et puis, en passant dans un endroit, il s'est arrêté dans un musée avec une peinture qui était là sur le mur. Et il a commencé à regarder cette peinture. La peinture, ça représentait le Christ en croix. Et cet homme, il contemple le visage douloureux du crucifié. Et il y avait une petite note qui était marquée en bas. Il y avait marqué « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Ce jeune homme qui avait grandi dans une famille chrétienne, qui connaissait le Seigneur pendant un temps, il s'était un petit peu éloigné. Ce jeune homme, il est resté là, planté devant cette peinture, en réfléchissant. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour le Seigneur? Et alors que la fermeture commençait à arriver, le gardien faisait le tour pour voir s'il restait du monde. Il a trouvé ce jeune homme qui était là devant la peinture. Il a dit, monsieur, c'est l'heure de partir, on va fermer. Le jeune homme s'est retourné, il avait les yeux remplis de larmes. Il pleurait. Et à partir de ce jour, il a choisi de donner tout ce qu'il avait, de consacrer tous ses biens, de donner tout son temps pour que l'œuvre de Dieu puisse venir dans son pays. Mais même au-delà, cet homme a été à l'origine des actions missionnaires, on peut dire ça comme ça, de toutes les œuvres missionnaires. Il a été à l'origine d'un réveil parmi les Moraves. Si vous lisez l'histoire un petit peu, vous voyez que cet homme a été puissamment utilisé par le Seigneur pour bénir l'endroit où il était, mais pas seulement, pour aller aussi vers les nations. Voilà ce qui se passe quand on laisse la croix saisir notre cœur. Voilà ce qui s'en passe quand on laisse les bras de Jésus nous interpeller et nous amener à lui dire « Seigneur, je te donne tout. Prends toute ma vie. Seigneur, je te donne ce que je suis. » Seigneur, je suis sur terre, oui, tu m'as donné la grâce de la vie, mais je veux te donner en retour ma vie tout entière. Est-ce que c'est pas ça que ça veut dire quand on chante « Vois mes bras tendus vers toi » Comment vous l'interprétez? Seigneur, je te fais un coucou, mais c'est juste pour le culte, après je fais ce que je veux de ma vie, c'est ça? Là, il vaut mieux pas lever les bras, hein, je vous le dis. Mais si vous dites « Seigneur, tu vois mes bras, mais c'est comme si je t'offrais mon être tout entier. » Alors là, vous allez voir combien Dieu va vous bénir. Justement, le dernier passage, c'est le chapitre d'après, Luc, chapitre 24, et le verset 50. Il s'agit de la dernière image que Jésus a voulu laisser à ses disciples, alors qu'ils étaient encore sur la terre, de manière physique. Il venait de ressusciter, il s'est manifesté à plusieurs reprises. Vendredi, on voyait qu'à plusieurs moments, les disciples, ils étaient dans l'incrédulité, même après la résurrection, jusqu'à ce que, enfin, ils réalisent que vraiment, il était ressuscité. Et là, au verset 50, alors qu'il est conduit à l'endroit où il va être enlevé, il est conduit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il est béni. Pendant qu'il est bénissé, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a marqué Amen? Alors cette fois-ci, on peut le dire tous ensemble. Amen. Même si on peut le dire, même si c'est pas marqué. Hein. Ça veut dire je suis d'accord. Vous avez vu cette image que Jésus a voulu laisser à ses disciples? Dernière image. Imaginez que la dernière fois que vous pensez à la personne que vous n'allez plus jamais revoir, Jésus a choisi de laisser l'image de un Jésus qui bénit, un Jésus qui étend les mains, un Jésus qui est là pour secourir ses enfants, pour leur faire du bien. J'aimerais avoir été à la place des disciples pour entendre les paroles de bénédiction qu'il leur a dit. Mais peut-être que dans le ciel, on le saura. On verra sur un écran plat la scène en direct, je ne sais pas. J'aime à me plaire à cette idée. En tout cas, est-ce que vous avez déjà réfléchi quelle a été la bénédiction des disciples? Parce que c'est très bien, Jésus les a bénis. Et l'image qui est là, c'est que Jésus est toujours en train de nous bénir. Mais quelle a été pour les disciples la bénédiction? Est-ce qu'ils ont, juste après, ils ont reçu une belle maison? Quelqu'un lui est venu leur voir en lui disant, tiens, je te donne ma maison. Un palais. Est-ce que c'est ça la bénédiction? Tiens, je te donne une barque avec un moteur surpuissant pour aller à la pêche, tu vas voir, c'est génial. Pour Pierre. Non, c'est pas ça. Tiens, je te donne une place élevée dans la société, maintenant tu vas être un homme influent, politiquement parlant. C'est ça la bénédiction? Rien de tout ça. Ni les richesses, ni les honneurs. C'est presque tout le contraire qui s'est passé. La bénédiction de Dieu, c'était quoi? C'était que ces hommes avaient la grâce de pouvoir répandre la foi dans toutes sortes de pays et de nations. Est-ce que ça, c'est pas la plus grande bénédiction? Mon frère, ma sœur, je ne sais pas de quelle manière tu es venu dans cet endroit, et je ne sais pas de quelle bénédiction tu réclames au Seigneur dans ton lieu secret de prière. Mais laisse-moi te dire que la plus grande bénédiction dans ce monde, ce n'est pas de posséder toute la terre, c'est de posséder le Seigneur Jésus dans son cœur, et de pouvoir être son serviteur, de pouvoir être celui qui, par sa vie toute simple, propage autour de lui la bonne odeur de Jésus-Christ. Et le résultat qui se passe dans ces hommes qui sont là, qui voient, qui contemplent le Seigneur Jésus en train de lever les bras, qui s'envolent à un autre endroit, il est dit que les anges sont obligés de les rappeler à l'ordre pour leur dire qu'il faut partir de là. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur à ce moment-là? Ils l'adorent. On ne se rend pas compte de la puissance de l'adoration, de la louange. Tout à l'heure, dans le don spirituel, c'est ce qui a été dit. Quelqu'un qui est là, qui combat par rapport à certaines choses, le Seigneur va la bénir quand il va se mettre à louer. Est-ce que c'est bon de louer le Seigneur? Souvent, c'est les excuses qu'on dit. Seigneur, tu vois, je te loue dans mon cœur. Mais combien de fois on dit ça pour compenser le fait qu'on n'a pas vraiment envie de louer, finalement? Combien c'est bon quand une bouche confesse le nom du Seigneur? Combien c'est bon quand on est là dans l'adoration, parce qu'on voit les mains. Si vous n'avez pas la force d'adorer, alors contemplez le Christ, les mains en train de vous bénir, en train de prier pour vous, en train d'intercéder, en train de dire, cet homme, cette femme qui traverse cette situation, mon Dieu, je te demande que ta main bénissante soit sur lui. Et si vous considérez que Jésus est en train, là où il est, sur son trône de gloire, en train de prier pour vous, en train de vous bénir, alors dans votre cœur va monter quelque chose qui va dire, Seigneur, je ne mérite pas que tu pries pour moi. Je ne mérite pas que tu t'intéresses à moi. Si vous pensez à ça et que vous vous dites, c'est normal, je suis son enfant, après tout, faut qu'il me bénisse. Et il va pas vous bénir beaucoup. Et si vous dites, Seigneur, je ne mérite pas, c'est par ta grâce. C'est parce que, Seigneur, tu as choisi de me bénir. Alors je veux t'offrir ma vie. Il l'adore. Il réalise avec force la divinité de Jésus. Que pensez-vous de Jésus-Christ? Cette question, c'est peut-être une des plus importantes aujourd'hui dans notre monde. Les gens croient en Dieu plus ou moins. Les gens croient en une force supérieure. Mais combien pensent que Jésus est Dieu? Combien pensent que Jésus est vraiment l'incarnation de Dieu sur la terre? Si vous avez ça dans votre cœur, alors vous allez vous tourner vers le ciel et vous allez adorer votre Seigneur. Il y a quelque chose qui va monter en vous, parce que c'est une réalité de la doctrine biblique que Jésus a manifestée le visage de Dieu sur la terre pour montrer aux hommes combien il les aimait. Ils sont pleins de joie, nous dit la parole. Quel contraste avec les jours précédents. Comment ils étaient les jours précédents? Ils étaient enfermés dans la maison à double tour. Ils étaient là en train de trembler et on se pensait qu'on allait peut-être les faire mourir. Ils étaient tristes aussi parce que Jésus était mort. Et là, parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité en train de les bénir, il y a une joie incommensurable qui monte dans leur cœur, et on se rend compte que cette joie qui est là, elle leur a donné même la capacité plus tard, par la puissance du Saint-Esprit aussi, de se réjouir même en train d'être battus, maltraités. Les gens venaient de les fouetter, et il est dit qu'ils se réjouirent d'avoir été jugés dignes d'être traités comme le Seigneur. Est-ce que vous êtes joyeux quand on vous frappe? Si c'est le cas, vous venez me voir à la fin, je vais faire un test. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de candidats. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, spirituellement. Si le Saint-Esprit agit en nous, nous donne cette capacité de nous réjouir même dans les épreuves. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le temple. Quand nous passons des moments difficiles, combien c'est bon de réaliser qu'il y a une joie que l'on trouve avec un Jésus qui ouvre les bras sur nous. Mais ils veulent pas garder la bénédiction pour eux. Vous avez remarqué? La bénédiction de Dieu, c'est pas quelque chose perso. Vous connaissez des gens qui jouent souvent au foot, on connaît quand on joue avec des uns et des autres, il y a des gens qui sont perso. Ils passent pas la balle. Ils gardent la balle pour eux, et souvent ce qui se passe, sauf s'ils sont tellement talentueux, mais c'est pas souvent le cas, ils perdent le ballon. Parce qu'il y a tout le monde qui se concentre sur eux, du coup. Et les autres, ils sont là, ouh, j'existe, fais-moi la passe. Mais vous savez que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas perso. Quand on reçoit quelque chose, automatiquement, on n'a qu'un désir, c'est de la manifester, cette bénédiction autour de nous. Et ils vont dans le temple. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le temple? Ils vont pleurer, gémir parce que Jésus n'est plus là? Non, ils vont, et continuellement dans le temple, ça veut dire souvent, louant et bénissant Dieu. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu, mais ils le bénissent à leur tour. Et ils bénissent aussi ceux qui sont là. Quand on lit le livre des Actes, on voit que c'est ce qui s'est passé. À quoi ça servirait que Jésus ait les bras tendus vers nous, pour nous bénir, pour nous accueillir, pour blanchir notre cœur, si c'est que pour qu'on reste les bras croisés, tristes dans notre coin? À quoi ça servirait? À rien. Quel dommage. Et combien de personnes passent à côté de cette réalité que Jésus a les bras tendus vers eux.